J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme moderne, élevé dans l'idéologie de la rupture. On lui a dit que le passé, c'était le passé, qu'on pouvait trouver la force de rompre, qu'elle était là, la modernité, dans cette ivresse du rompre, cette manière de tourner le dos ou de faire volte-face, d'aller de l'avant sans se retourner. On lui a dit que la vie, c'était comme ça, comme dans une chanson de Francis Lalanne, un geste de rupture, une décision, une fondation. On lui a dit qu'on pouvait fonder sur rien. On lui a même parlé d'un roi, un grand roi, qui aurait trouvé le courage de rompre avec la tradition, de cesser de se soumettre pour fonder du nouveau à l'autorité de l'éternel hier. Il a bien objecté que ses parents, ses grands-parents, leur exil, leur douleur, bref, que ce passé ne passait pas. On lui a répondu de passer à autre chose, qu'il lui fallait juste un projet, un bon projet, que son passé changerait de couleur quand il aurait trouvé ce bon projet. Alors il a essayé d'y croire et de devenir ce roi, le roi d'un royaume sans mémoire, sans histoire. Il a changé de projet, fait preuve de volonté, acheté les baskets de running les plus chères du marché. Plus il voulait être léger, moderne, les cheveux dans le vent, et les yeux vers l'avant. Plus son corps était lourd, son corps traînait la patte. Plus il voulait, moins il pouvait. Et puis un jour, son corps a fait barrage. Lui ne pouvait plus rien dire, plus se mentir à lui-même, plus s'auto-persuader. Son corps s'était mis à parler. Son corps allongé sur le divan. Son corps savait tout ce que lui ne voulait plus savoir. Son corps portait en lui le passé de ses parents et de ses grands-parents. Son corps conservait les traces de leur douleur. Son corps disait leur silence, leur non-dit. Lui, sur le divan, il ne parle pas beaucoup. Il est trop occupé à essayer d'entendre tout ce que son corps veut dire, à cesser de lutter contre ce qui hante son sang. Il se souvient soudain d'une chanson de Benjamin Biolay. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans, ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est un homme moderne qui ne peut plus être moderne. Il est l'enfant d'eux. Mais de quoi, au juste ? C'est avec cette question, peut-être, de quoi est-il l'enfant, peu à peu, qu'il va reprendre pied. C'est avec cette enquête, peut-être, peu à peu, qu'il va retrouver son chemin, et avec son passé, peut-être, se donner un avenir. Pour en parler ce matin de l'avenir et du passé, j'ai la joie de recevoir l'écrivain Camille de Toledo, auteur notamment du magnifique Thésée, sa vie nouvelle, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous accompagner sur les bords de cette difficile question : que faire du passé quand il hante le présent ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Camille de Toledo, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir en face de moi, de pouvoir parler avec vous de toutes ces difficiles questions. J'aurais envie de commencer par cette question. Ce moderne que j'ai évoqué dans ma petite chronique, quand on lit votre très beau livre, même j'aurais presque envie de dire chef-d'œuvre, mais bon, on en parlera plus tard, Thésée, une vie nouvelle. Quand on lit le début, on a l'impression que ce personnage, en tout cas, a voulu être ce moderne au début de l'histoire. Il a voulu laisser le passé derrière lui.
Oui, c'est un double. On se crée parfois des doubles en tant qu'écrivain, et c'est vrai que j'ai réussi. Voilà, je pense que j'ai trouvé les mots du moderne. C'est toute cette tentative de rupture que Thésée, tente en partant, en quittant la ville où il a grandi, enfin où il a été jeune, et puis en emportant ses enfants après une série de morts. Et c'est dans le rapport au deuil que cette tentative de rupture va échouer à partir d'un mot que vous avez prononcé, qui est celui de hantise, hanté. Certains philosophes ont parlé de spectralité, de hantologie même parfois. Voilà, je crois que c'est en fait à travers ce livre une manière aussi de qualifier ce que c'est que de naître à la fin d'un siècle qui est très très lourd, qui est très très chargé de mémoire et que l'on aimerait bien quitter justement pour qu'il y ait la vie, qu'il y ait des histoires nouvelles. Mais évidemment, c'est l'histoire aussi un peu de cet échec, de ce que j'appelle parfois une inertie de la mémoire.
Oui, bien sûr. Alors, ce personnage, donc Thésée, qui vous ressemble beaucoup, il a donc perdu son frère, qui s'est suicidé, puis il a perdu ses deux parents. Il essaye de rompre avec ce que vous appelez la ville de l'Ouest, qui ressemble beaucoup à Paris, pour aller s'inventer, on va dire dans un geste un peu sartrien, quoi, une vie nouvelle, en l'occurrence dans la ville de l'Est, à Berlin. Le problème, c'est que dès le début, quand il part, prétendument pour rompre, il emmène quand même des cartons, une sorte de malle, je crois. Et puis, dans ces cartons, il y a des traces du passé, des choses, des vestiges. Donc, quelque part, il n'y croit pas vraiment même dès le début.
Je pense qu'il y a, donc là, si je parle du substrat biographique, c'est vrai que j'ai, lorsque les proches meurent, on se demande ce que l'on va, il se pose la question de l'archiviste, quoi. Qu'est-ce qu'on garde? C'est vraiment à partir du deuil et de la mort que se pose la question de l'archive. Qu'est-ce qu'on garde? Et je me souviens avoir énormément jeté, tout jeté, c'était en quelque sorte justement recouvrir tout ça d'un immense voile d'oubli et d'effacement. Et donc on garde quelques cartons, un peu comme toujours cette idée que si on a à partir dans l'urgence, qu'est-ce que l'on gardera de sa vie? Il y a quelque chose comme ça d'une persistance, d'un attachement aussi, une rupture qui est proprement impossible. Et donc j'ai gardé trois cartons, et c'est ces trois cartons qu'on retrouve dans le récit fiction qui est Thésée, sa vie nouvelle, c'est-à-dire ce personnage qui part dans le dernier train de nuit pour Berlin avec cette c'est comme une sorte de bombe à retardement, c'est quelque chose qui est là, qui l'attend, qui est bien clos dans des, on pense avoir enfermé dans ses cartons, et qui va simplement s'imposer à lui par ce poids que vous évoquiez au début, quoi. C'est plus qu'un poids extérieur, ça devient progressivement une sorte de poids intérieur qui pèse et qui lui demande en quelque sorte depuis le passé des comptes, qui lui demande de compter avec, de s'interroger sur ce qui a eu lieu, et de s'interroger notamment sur le suicide, qui est une grande question de philosophe, qui traverse beaucoup de recherches de philosophes, de textes de philosophes, de sociologues aussi. Et là, c'était pour moi aussi une manière différente, peut-être autre, d'entrer dans cette grande interrogation sur la mort volontaire.
Oui, alors c'est, il faut le dire, un livre très très fort. Il est effectivement dur, mais il est aussi très beau, très puissant. Il y a beaucoup d'inventivité dans la forme, puisque la mise en page est très originale. Il y a des photos, en l'occurrence des archives. Il y a une calligraphie particulière. Et effectivement, sur cette question du suicide, quelque chose de très ambitieux, puisqu'au fond, on est habitué à entendre deux idées du suicide, celle très sociologique de Durkheim, comme un fait social, et puis celle, on va dire, plus presque romantique, une mort volontaire, une mort qu'on aurait choisie, qu'on aurait décidée, et qui manifesterait une forme de liberté. Camus développe ça. Et vous dites, riche, fort, lourd aussi, de votre expérience d'avoir perdu votre frère, qu'en fait, aucune de ces deux interprétations ne vous convainc vraiment.
Oui, c'est-à-dire que je très modestement, à la fin de cette enquête généalogique, à l'intérieur de laquelle il y a d'ailleurs de la fiction, j'entrelace avec des éléments de fiction, mais il n'empêche que le livre se présente comme une enquête généalogique. Et ce qu'on va chercher effectivement dans cette enquête, c'est les raisons, pourquoi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue. C'est presque une question d'écrivain de roman policier, mais c'est une enquête sur le suicide d'un frère. Et oui, très vite, en fait, ça se heurte à quelque chose qui cloche, qui ne va pas. C'est-à-dire si je le dis à la fin, quoi, si j'emploie les outils de Camus, puis de Jean Améry, par exemple, c'est-à-dire des outils un peu existentialistes pour essayer d'expliquer cette mort volontaire, je vois qu'en fait, la volonté n'y est pas, l'acte libre, c'est le grand acte libre, enfin, qui rejoint d'ailleurs toute cette longue tradition, l'acte gratuit, l'acte libre, la réponse à l'absurde, enfin, toutes ces choses. Et ça ne convainc pas, ça ne va pas, en fait. Et de la même manière, le suicide durkheimien, qui serait un suicide statistique, qui l'a vraiment beaucoup documenté, ce grand mélancolique qui était Durkheim, ça ne va pas non plus. Et j'ai sur mon chemin de thérapie et d'enquête, et je suis tombé sur des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont ouvert d'autres horizons, notamment depuis ce qu'on appelle la psychogénéalogie.
Oui, d'ailleurs, vous êtes aussi thérapeute, finalement, vous êtes passé aussi de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce que c'est que cette démarche, la psychogénéalogie, en quoi elle vous a aidé? Et on comprend bien dans le livre, effectivement, que... Il y a aussi une très belle réflexion sur le corps, en fait. Qu'est-ce que le corps? Comment le corps de chacun peut recevoir plein de choses qui viennent d'un lointain passé? Et comment aussi un trauma, peut-être dans une génération d'avant, peut marquer encore aujourd'hui. Mais juste pour que les auditeurs comprennent, c'est parce que votre frère s'est suicidé, mais peut-être c'est pas simplement en raison de ce qu'il lui a vécu, mais de ce qu'a vécu notamment un de vos aïeux, Ovède, que vous évoquez dans le livre. Mais d'abord, peut-être sur la psychogénéalogie, pour qu'on comprenne comment on pourrait la définir.
Oui. En fait, je vais chercher progressivement à élucider ce que j'appelle la lignée des hommes qui meurent, c'est-à-dire des échos du temps long dans les corps. Et la psychogénéalogie, en quelques mots, si vous voulez, c'est, je vais assez sommairement résumer, mais Freud voulait, cerner la névrose et isoler le sujet pour le remettre en fonction, pour le rendre fonctionnel dans une perspective assez bourgeoise, viennoise, bourgeoise, juive, de responsabilité individuelle, c'est-à-dire après tout, on l'isole. Et très vite, en fait, des dissidents... De Freud, qui va, avec lequel il va dialoguer, etc., vont ouvrir d'autres champs. Alors c'est Jung et l'inconscient collectif, c'est Moreno et la question groupale, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un groupe. C'était poser la question de qui survit, pourquoi on survit, pourquoi quelques-uns survivent et d'autres meurent. Donc on voit très bien progressivement ce qu'on va appeler la systémique, c'est-à-dire l'idée que nous ne sommes pas seuls. Qu'en fait, le « nous ne sommes pas seuls » est déjà même en soi un paradoxe. Je ne suis pas seul. L'individu, en fait, est une série et un ensemble de liens, d'attachements, de liaisons, de souvenirs, de mémoires, qui le fait tenir au monde. C'est-à-dire, il ne tient pas tout seul, dans son autonomie pure, mais au contraire, il est lié. Et pour finir sur quelque chose qui m'a mis sur cette voie, c'est ce qu'on appelle en psychogénéalogie les dates anniversaires. J'emploie d'autres termes, comme le corps mémoire, les lapsus du temps, mais la date anniversaire, c'est dans mon histoire, cet aïeul qui s'est suicidé en 39, le 30 novembre, et je retrouve ça dans la date de naissance de mon père, le 30 novembre. Et puis je vais avoir le 26 janvier la date de naissance d'un frère et 26 janvier la date de mort d'une mère. Et on peut effectivement dire tout ça n'est qu'une pure synchronie, coïncidence, hasard. Mais des thérapeutes comme Jung ont été un peu plus loin en disant mais il y a quelque chose là d'une énigme de la matière même des corps, de la rythmique des dates, qui doit appeler d'autres explorations. Et c'est ce que fait le narrateur de Thésée sa vie nouvelle.
Exactement. Mais d'ailleurs, l'ancêtre en question, Ovède, lui aussi était intéressé par la généalogie. Et ce qui est intéressant, et très troublant d'ailleurs, j'avoue, ce souvenir me revient, dans, je crois, votre premier texte, il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans,
2002, ouais.
Un texte qui s'appelait Archimondain Jolipin, je crois, vous aviez déjà ce très fort intérêt pour les dates. Mmh. Et je me souviens que vous aviez montré qu'il y avait le 11 septembre, c'était le 11-9, et que la chute du mur de Berlin, c'était le 9 novembre. Et déjà, vous étiez très intéressé par ces synchronicités, alors même que vous n'aviez pas encore vécu les drames qui sont à l'origine de Thésée, sa vie nouvelle. C'est très troublant, ça. C'est-à-dire que vous aviez déjà ça, en fait, avant même que d'en avoir le besoin, au fond, intime, pour élucider, si c'est possible, une histoire familiale. Vous étiez déjà attiré par ça.
Oui, dans le premier livre, en 2002, c'était, disons, une sorte de lucidité par rapport à un temps historique. C'était vraiment le temps collectif, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'avoir grandi, d'avoir comme ça été éduqué entre deux dates d'effondrement, quoi. L'effondrement de la chute du mur de Berlin et l'effondrement des tours du World Trade Center. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour nos corps, pour nos consciences, le temps des chutes?
Le 9-11 et le 11-9.
Oui. Et c'est vrai que j'avais noté ça, j'avais appelé ça la conscience palindrome, parce que si on change les chiffres de place, 9, 11, 11, 9, ça donnait une structure inversée. Après, dans ces temps où il y a beaucoup de tendance à la conspiration, à avoir des très très grandes cohérences, des grands schémas de cohérence globale, à voir des monstres dans les fumées du World Trade Center et autres, je tiens juste à signaler que c'est à tâtons et avec prudence que j'observe ces dates, ces syndromes anniversaires, comme on les appelle, simplement peut-être comme des signes qui appellent de futures investigations, mais pas tant disons déjà le signe d'une certaine cohérence qu'il faudrait trouver derrière les événements.
Mais bien sûr, c'est ça qui est très très intéressant dans votre livre et très délicat. On n'est pas dans une explication comme ça implacable, mais dans une enquête au fond assez délicate. Je lis ce que vous écrivez à la fin dans votre post-scriptum, parce que on voit que la question se pose aussi sur un terrain plus général. À partir des photographies. En regardant les photographies des temps anciens, les albums de famille, nous rencontrons des êtres séparés de nous par des décennies et nous nous demandons quel lien peut bien nouer ces vies entre elles, par-delà tant de cycles de séparation. Nos vies, pour le demander autrement, de quel ricochet sont-elles les ondes ?
Oui, et on met du temps d'ailleurs à cela représenter cette image, parce que dans cette phrase que j'ai mis un peu du temps à ciseler, mais il y a cette idée qu'en fait nos vies sont des ondes, mais qu'il y a une pierre qui est jetée depuis la nuit des temps, qui ricoche en fait et qui est un continuum. Et les ondes se prennent pour des solipsismes, pour des espaces autonomes séparés. Elles ne se regardent pas, ces ondes. C'est une vie, c'est des générations. Mais lorsqu'elles se mettent à observer un peu le corps humain et la psyché et les attachements autrement, alors on se rend compte à quel point il y a un continuum. En psychogénéalogie, on parle aussi d'intrication des corps entre eux. Et c'est vrai que c'est souvent dans les moments de deuil ou dans les moments de naissance, ou souvent qui sont d'ailleurs parfois comme ça, qui ont des échos, que ces choses apparaissent, ou qu'on est sollicité pour les voir.
Et puis surtout, de quel ricochet sont-elles les ondes ? C'est-à-dire que l'onde n'est pas créée par un impact, un seul, mais par une répétition d'impact, donc par quelque chose qui revient. Mais d'ailleurs, ça peut être aussi joyeux, puisque dans la psychologie généalogique, on s'aperçoit souvent que, c'est d'ailleurs le cas dans ma famille, plusieurs morts le 1er janvier, puis une naissance le 1er janvier.
Mmh, c'est ça. Et dans le cycle des 26 janvier, j'ai moi-même aussi d'autres naissances. Mais c'est comme s'il y avait cette sorte d'appel depuis la matière. Et de toute façon, je crois que ça c'est aussi une des lumières qu'il y a dans ce récit fiction très sombre qui est Thésée de sa vie nouvelle, c'est que c'est traversé par cette grande lumière, c'est que la matière, si on se met à l'écouter, au fond nous veut du bien, c'est parce que nous la maltraitons, que c'est parce que nous lui faisons violence par différents postulats d'émancipation, de liberté, d'arrachement, mal compris. Que tout d'un coup il y a violence. C'est si on commence à être attentif, on le sait d'ailleurs au corps, au temps de nos pensées, quelque chose comme une douceur, voire une forme d'amour et de bonté est là en fait pour aider la vie.
Bien sûr, cette matière c'est celle du corps et quand on l'écoute, on voit au cœur de la nuit la possibilité évidemment d'une trouée de lumière et c'est pour ça que votre livre est aussi, on pourrait presque dire, malgré son caractère très sombre, un livre d'été, un livre de plage. Je pense que la répétition, je suis content que ça vous fasse rire, en plus il est couleur de sable.
Oui, c'est vrai.
On va écouter Stevie Wonder et on reprend cette discussion après.
Spending most of their lives living in a pastime paradise. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. Been wasting most of their time glorifying days long gone behind. Been wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who are they? Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information to the evils of the world. Been spending most of their lives living in a future paradise. Been spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep
long to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a revelation, consolation, integration, verification of revelation. Acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future.
C'était Stevie Wonder, sublime et léger morceau, Pastime Paradise.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Camille de Toledo, l'auteur de Thésée, sa vie nouvelle, aux éditions Verdier, dont j'ai oublié de dire tout à l'heure que vous aviez failli avoir le prix Goncourt. C'est pas passé loin. Ça aurait été merveilleux, d'ailleurs, d'avoir le prix Goncourt avec un livre si profond, si complexe, si dur. Et en même temps, on parlait de ça avant la pause musicale, où on voit quand même de la lumière. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour vous, à quoi vous vous êtes accroché pour retrouver le sens du présent, étant entendu qu'on comprend dans ce livre que quand on accepte les synchronicités, quand on accepte d'accueillir la répétition, on peut peut-être trouver aussi l'élan pour en sortir. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses, des amitiés, des pratiques qui vous ont permis au fond de vous relever, quoi?
Ouais, ça continue d'ailleurs. Donc d'abord aussi pour préciser, ce dont souffre Thésée, c'est une énigme, c'est un mystère, et ça a longtemps été un mystère pour moi. Mais dans le processus d'écoute corporelle, il a fallu retraverser toutes les mémoires, comme on le disait. Mais il y a aussi une chute réelle, c'est-à-dire qu'il y a un accident physiologique assez jeune. Et progressivement, c'est comme si je remontais dans les âges de la blessure. C'est très fascinant comme état, comme condition, et donc pour me guider, pour me conduire, oui, j'ai rencontré des gens extraordinaires, différents. On les qualifierait comme ça simplement de chamans, mais ce sont de très grands initiés. Et il faut partir aussi de cette idée que mon état ne permet pas une intervention. Vous savez, le rapport à la matière, c'est un peu comme la fracturation hydraulique, où c'est la même chose. La chirurgie, c'est bon, on intervient, on bouge la mécanique, quelque chose. Et lorsque l'on n'a pas de solution du côté de cette médecine de la volonté, je pourrais l'appeler comme ça, une médecine de la volonté, une médecine scientifique à l'occidentale, mais une médecine de l'intervention ou une médecine médicamenteuse, il faut se tourner vers d'autres formes de savoir, de pratique. Et donc là, c'est aussi beaucoup là qu'est revenue la question du sacré dans ma vie, la question, évidemment, cette pratique très très intense que j'ai pour vivre, hein, de la méditation.
La méditation de pleine conscience, c'est ça?
Oui, on va appeler ça différemment aussi. J'appelle parfois ça de l'écoute active. Les Indiens appellent ça, c'est une pratique de yoga qui est de yoga nidra. En fait, c'est on se met comme un mort. On se met à la place du mort. Et en fait, c'est vraiment, oui, un temps d'acceptation. C'est-à-dire, plutôt que de lutter contre. En fait, celles et ceux qui nous écoutent, même sur la plage, même en plein été. Ouais. C'est d'ailleurs un moment où, parfois, on lâche prise. Mais, il y a quelque chose comme ça, une image qui parle, c'est, prenez l'image d'un bras de fer. Et en fait, nous avons quotidiennement un rapport de bras de fer à nos corps et à la matière terrestre. ça de façon synchrone. C'est-à-dire qu'on va, on va demander, on va exiger, on va, le mental va faire violence à la matière.
La matière, et c'est bien le corps.
La matière, c'est le corps, comme la matière terrestre, d'ailleurs, aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans Thésée, sa vie nouvelle, il y a ce va-et-vient, souvent, on l'entend, entre une écologie corporelle et une écologie plus générale, de rapport au monde, quoi.
Oui.
Et donc là, lorsqu'on se met à l'écoute des fragilités, des blessures, de ce temps autre du corps, quelque chose s'accomplit, en fait. Le nœud du bras de fer se dénoue. Et la main devient plus laxe, et donc là, on peut parfois sortir de ces nœuds, de ces impasses de la vie.
Vous voulez dire que vous sortez du rapport de force symbolisé par le bras de fer. Est-ce qu'on pourrait dire pour accueillir les forces en présence?
Oui, c'est ça. Ce sont des bons mots. L'accueil, l'acceptation. Qui sont l'inverse, vous savez, du rapport classique à la maladie. Quand quelqu'un est malade, on dit « bats-toi ». Il faut te battre. Mais en fait, on n'interroge jamais la qualité de ce combat. Ce combat ne signifie pas forcément guerre. Puisque guerre, en fait, c'est ajouter de la violence à la violence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut repenser les qualités et les conditions de se battre. Bien sûr, se battre, c'est pour vivre, pour laisser entrer la vie, pour rappeler la vie en soi, pour rappeler la vie dans un cycle des morts, puisque ça a été mon cas. J'appelle ça aussi revivre ou la revivance, et en même temps comprendre que voilà, ça c'est un tournant dans la dimension du battre, du combat. Ce combat, en fait, il doit se faire avec ce qui veut vivre en soi et pas contre, en fait, l'entièreté du corps.
Vous voulez dire peut-être que
dans ces pratiques, il y a ça.
Dans la pratique de méditation de pleine conscience, il s'agit de se reconnecter au présent, on pourrait dire à la nature aussi, au monde, peut-être aux arbres. Vous parlez beaucoup des arbres. Vous avez écrit un essai qui porte pour titre « Le être et le boulot », essai sur la tristesse européenne. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça, la méditation de pleine conscience? Et peut-être une question subsidiaire, est-ce que ça veut dire aussi, parce qu'il y a deux interprétations, je crois, soit, puisque votre passé vous hante, et on comprend bien pourquoi, dans la méditation de pleine conscience, on arrive à être dans une sorte de présent, qui fait que le passé cesse de hanter, ou alors, au contraire, on accueille complètement les fantômes du passé, mais dans un présent apaisé.
Oui, en fait, les grands maîtres, même parfois qu'on consulte, vous diront qu'en fait, le vide mental est presque inatteignable. Les gens cherchent un vide mental, mais non. Ils disent souvent, voyez ce qui vous passe par la tête comme un film mental. Et dans ce cas-là, on crée cette petite distance avec soi où on n'est plus engagé par un futur de type « il va falloir que je me lève pour aller prendre l'avion », ce qui est quelque chose que je ne pouvais plus faire pendant 2 ans, aller me lever. C'était ça. Et parfois, il y avait des exigences du quotidien qui disaient « il faut que tu te lèves ». Mais non, en fait, renoncer à l'idée de se lever. Donc en fait, l'acceptation, c'est ça. C'est regarder tout ce qui nous tend du point de vue chronologique, temporel, c'est-à-dire le passé, le futur, ça, ce sont des tensions qui sont faites au présent. Et c'est d'ailleurs toute l'immense, l'abysse qui sépare le présent, ou disons l'actuel, et la présence. La présence, ça, c'est quelque chose qui est tout autre en termes de qualité d'écoute. Et en fait, notre présent est saturé par de l'actuel, c'est-à-dire en fait des nouvelles, des informations, de l'histoire, en fait, qui nous convoquent en permanence et qui nous arrachent
à
la présence.
Alors, vous écrivez très, très, très bien aussi que il y a une enquête à faire sur son passé, mais cette dimension de généalogie, on est bien d'accord que dans la méditation de pleine conscience, on la met en congé.
Ou pas, non, bien sûr que non. Moi, je me sers, en fait, j'ai un usage maintenant très, très parfois productif de la méditation. Je suis en train d'écrire, j'ai un nœud sur un chapitre, sur quelque chose que j'arrive pas à dénouer dans une histoire. Je me mets en méditation plutôt que de convoquer le bras de fer. Au contraire, je l'arrête, je le stoppe et j'écoute, en fait, et ça se dénoue tout seul. C'est assez.
C'est vraiment une invitation à cesser de vouloir, quand même.
Oui, c'est une invitation à cesser de vouloir.
Mais alors, quand on cesse de vouloir, on retrouve quoi? Qu'est-ce qui prend la place de cette volonté qui cesse d'occuper tout le terrain?
Si je n'avais pas, moi, cette blessure, je pense que je pourrais répondre la vie ou le bonheur, la joie même.
Oui.
Plus encore la joie. C'est-à-dire la sortie de la douleur. Il y a un maître qui est Eckhart Tolle, qui parle de ça, en fait, la puissance de l'instant présent. c'est quelque chose qui, logiquement, lorsqu'il arrive, lorsqu'il survient, cette présence, lorsqu'elle survient, on sort de la douleur des modernes. La douleur des modernes, c'est l'inaccessible du vouloir, c'est le désir qui, enfin, vous savez ça mieux que moi en philosophe, mais c'est cette sorte de souffrance de quelque chose qui nous sépare de l'objet du désir. Et voilà, moi, je garde cette blessure, donc elle est là toujours, donc je suis toujours un peu séparé de la vie. Mais je pense que sans cette blessure, il y aurait la joie.
Elle est pas loin déjà. Elle est pas loin.
Non, ça avance.
J'ai l'impression, en lisant ce livre, Thésée, sa vie nouvelle, moi j'ai pris une vraie claque de lecteur et d'amateur de littérature aussi, parce que c'est de la littérature. Hein. C'est très écrit, c'est très travaillé, c'est très ciselé. C'est un peu comme une prière, une litanie. Je devine, mais je voudrais pas être impudique, mais je devine que quand même il y a eu de la joie dans l'écriture, malgré tout.
Oh là là, non.
Non.
Non, il y a, disons que, hélas, j'aimerais bien que ça soit autrement, mais ma joie est, enfin, vous avez raison, s'il y a une joie du faire, il y a une joie de la réception, il y a une joie de l'écoute, du partage, il y a eu des joies à la sortie de ce livre, de voir qu'en fait, d'autres blessures allaient vers moi et entraient en relation avec le livre, et pas forcément d'ailleurs des blessures, donc, il y a, ça, c'est une part de la joie, mais non, ça a été très 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 dur. Ouais. De replonger dans le passé, de retrouver le frère, d'accepter de le retrouver, d'aller vers ce terrain complètement miné de l'enfance. En fait, la perte d'un frère par le suicide, en tout cas, c'est comme ça que ça a été chez moi, ça a empêché l'enfance. Et lorsque l'enfance en soi est empêchée, en fait, il n'y a plus de bonheur. Quoi. L'enfance, c'est vraiment une source lorsqu'on a eu la chance qu'elle soit un peu heureuse. L'enfance, c'est une source inépuisable de recours. Revenir à l'enfance. À quelqu'un qui oublie son enfance, il a tout perdu.
Et il y a une chanson de Barbara là-dessus qui dit que les souvenirs nous hantent et qui parle justement des souvenirs d'enfance qui sont ceux qui hantent le plus lorsqu'ils ne sont pas bons.
Alors, je pense qu'il faudrait justement préciser, c'est que le rapport au passé, il peut être frappé du sceau de la nostalgie, c'était évidemment le cas de Barbara et de toute beauté. Mais lorsque je parle de convoquer l'enfance et de le retrouver, c'est dans les cellules mêmes du corps.
Oui.
Et si on retrouve l'exultation, en fait, de l'enfance, mais même une séquence très courte, d'un seul instant où on a été dans la pure joie, dans le pur bonheur, dans l'exultation, dans la dépense, au sens presque de bataille, c'est-à-dire une dépense qui ne compte pas. Une course avec un frère, un fou rire, enfin quelque chose d'une joie infinie. Si on arrive à retrouver ça, c'est la vie qui est là, c'est pas la nostalgie.
Vous écrivez ce livre, vous avez écrit ce livre, peut-être aussi pour les générations d'après, c'est-à-dire pour les libérer, dans la mesure où peut-être vous ne pouvez pas, vous, espérer cette libération, en tout cas pas totale, mais peut-être le travail que vous faites sur vous, sur vous-même, il est destiné aux autres, enfin, au futur.
Je crois beaucoup à ça. Et d'ailleurs, je vais parler là un peu générationnellement, mais pour moi, vivre, naître à la fin du XXe siècle, c'est porter cette charge de la transition. On parle beaucoup de transition dans nos mondes, transition, transition. Mais il y a quelque chose d'une transition, transmission, ou d'une mission trans, qui nous incombe, parce qu'on a derrière nous ces grandes douleurs du XXe siècle, et on a devant nous, en fait, un devoir de métamorphose, un impératif de métamorphose, et c'est vrai que... Et puis Thésée, c'est, dans le mythe, c'est quelqu'un qui vient quand même libérer le passé, c'est quand même quelqu'un qui vient mettre fin aux tributs payés par des cités libres, au nom du passé, au nom d'une défaite passée. Les corps, les jeunes corps du mythe de Thésée qui sont jetés dans la gueule du Minotaure le sont parce que Athènes a perdu. Et donc on voit bien comment le passé en fait traîne sa dette.
C'est ça, oui.
Et l'espoir, évidemment, mais je crois pour chaque génération, c'est de laisser un avenir un peu moins endetté. En tout cas, je pense que c'est un peu le sens qu'a ce nom de narrateur.
C'est vrai. On va y revenir après une petite pause musicale à ce Thésée et à ce mythe, au fond, à cette espèce de légende que vous écrivez dans ce livre merveilleux, mais qui n'est au fond pas vraiment un roman et pas vraiment non plus un récit. On va en parler après.
170 au compteur, je passerai presque inaperçu. On s'est écrit tout à l'heure, je ne veux pas de malentendu. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attarde. Envie déçue ou amour fou. Y a mes idéaux qui me lâchent. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. T'appelles mélancolie, tu repars comme dans deux pas. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Même si je ne t'appelle pas, mélancolie. Encore un après-midi, à mater la rue de chez soi. Si seulement ça faisait envie. Voir faire n'importe quoi. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attache. Là dans mon cou, tu es revenu. Y a ma raison qui me lâche. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. L'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passera pas. Même si je ne t'appelle pas, mélancolie, je te cherche dans les draps. Casquette de ciel enfoncé, on se croira toujours heureux. Nos cœurs sont pourtant gris foncé. Je dors pour rêver un peu, pour qu'on vienne me réveiller. Les étoiles que j'ai dans les yeux ne sont pas des lunes accrochées. Je sors le soir avec ma lady, elle porte lunettes et traits d'esprit. Des dollars plutôt que du brandy, c'est des faux espoirs qu'elle vous brandit. Vous l'avez tous aimé, mon ami, elle vous rend visite toutes les nuits. Je voudrais pourtant qu'elle me quitte et que de mes peines je m'acquitte. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas.
C'était PR2B, Mélancolie.
Sous le soleil de Platon.
Mais c'est ta faute, le temps qui passe, les choses qui changent. Non, bah t'excuses pas.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Camille Toledo, dans Sous le soleil de Platon, sur France Inter, qui vient nous parler de son très beau livre, Thésée, sa vie nouvelle, et puis plus généralement, de ce qu'on peut faire pour essayer de reprendre pied quand on est hanté par un passé qui ne passe pas. Quand on a compris que le projet de la modernité, de rompre avec le passé pour s'élancer comme ça de manière nouvelle dans l'avenir, au fond est un projet vain. Et donc vous avez parlé de méditation de pleine conscience. Et puis je vous ai aussi entendu dans un autre cadre parler de cette thérapie qui est l'EMDR, qui me paraît très intéressante dans le rapport au trauma. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
Oui, vous racontez même brièvement, très brièvement l'histoire, mais disons que en fait longtemps les thérapies ont été bras ballants devant le trauma. Jusqu'au milieu des années 70, en fait, les thérapeutes n'arrivent pas à accéder à certaines zones limbiques du cerveau. Et de façon très très pragmatique, expérimentale, au milieu des années 80, je crois, je parle de mémoire, mais quelques thérapeutes ont commencé à explorer d'autres dimensions. Alors ça partait par l'hypnose, et puis l'hypnose ayant un peu à voir avec le balancier des yeux, quelque chose en fait s'est activé. Donc ça a donné cette thérapie aujourd'hui qui est un peu plus formelle, plus fléchée, qu'on appelle le MDR, qui est une technique qui a servi d'ailleurs à traiter beaucoup de personnes qui étaient au Bataclan, ou qui ont vécu des situations de guerre aussi, des soldats qui reviennent de terrains de très grande violence, etc. Et comment ça agit en fait ? Ça, c'est cette question, parce que le trauma va se nicher dans des zones du cerveau qui sont, enfin Boris Cyrulnik l'a dit beaucoup au cours des dernières années, mais parfois se nicher dans des zones du cerveau qui sont inaccessibles au langage. Et donc l'analyse ou la thérapie par le langage n'accède pas. Le langage, le cerveau limbique est frappé par quelque chose qui est un danger imminent, et ce danger imminent en fait persiste. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler hantise. C'est oui. Moi, pendant des années après la mort de mon frère, je n'arrivais pas à sortir de cette pensée que chaque appel amenait l'annonce d'une mort, qu'on allait m'annoncer la mort de mes enfants, qu'on allait m'annoncer la mort de quelqu'un, et je n'arrivais pas à reprogrammer. Et la signification, je crois m'en souvenir de mémoire, de EMDR, c'est eyes, donc les yeux, motion, le mouvement des yeux, desensibilization, pour désensibiliser, et reprogramming, donc en fait reprogrammer. Et pourquoi en fait on y arrive et on y accède par les yeux, et pas par le langage, c'est que les nerfs optiques sont connectés directement sur des zones très 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 profondes, avec l'arachnoïde derrière et l'os sphénoïde qui est à l'intérieur du crâne. Mais ce sont des zones qui sont très 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 protégées, et qui, lorsqu'elles sont bloquées sur un mécanisme de survie ou d'angoisse, ne peuvent être reprogrammées que par soit de la méditation très profonde, soit par des techniques comme ça
Ce qu'il faut expliquer pour les auditeurs, c'est que donc il y a des images, les traumas sont en quelque sorte des images, et donc dans cette méthode, on fixe l'image et puis on fait un travail avec les yeux, avec les paupières, comme pour, au fond, désamorcer le caractère insupportable de cette image pouvoir vivre avec.
C'est ça. C'est comme quelque chose qui s'est encrypté, qui s'est imprimé dans la matière, effectivement, dans des zones très très profondes. Alors, je sais pas, un viol, quelqu'un qui meurt devant soi dans un terrain de guerre. Moi-même, le jour où j'ai découvert mon frère, pendu, en fait des choses de cette intensité-là qui engage la vie et la mort. Et en fait, ce qui engage la vie et la mort pour les êtres humains nous ramène à l'animalité. Hein, ce qui relève de la vie et de la mort pour un être humain, ça n'est plus de l'ordre de la ratio, ça n'est plus de l'ordre du langage, c'est quelque chose qui va se nicher bien plus profondément, et on y accède par ces outils.
Donc il s'agit de désactiver non pas le trauma qui demeure, mais l'émotion attachée au trauma. Qui fait que finalement j'arrive plutôt à vivre avec.
Oui, je pense qu'on arrive même parfois à atteindre, en fait, à ce que l'image ou ce qui est engrammé ou ce qui reste, en fait, c'est aussi, on ne sait pas exactement encore ce qui se passe. Ce qu'on sait par contre, les neurosciences nous le disent, et quelqu'un comme Antonio Damasio le raconte, c'est que il y a en fait, l'organe le plus plastique du corps humain, c'est pas le sexe masculin ou un bras ou quelque chose qui serait d'une souplesse infinie, c'est le cerveau. Le cerveau a une plasticité infinie, mais c'est simplement qu'il prend comme une tranchée en 14-18, il prend des plis au fil du temps. Et le moment du trauma, c'est le moment où le cerveau va prendre un pli qui va être presque définitif, et c'est comme si on revenait sur ce terrain et qu'on cherchait à modeler le cerveau autrement pour qu'il réagisse, mais pas selon les mêmes conduits. C'est-à-dire, justement, une image, une sensation, une odeur qui est associée à un trauma, un viol ou autre, on va la requalifier. On va dire non, cette odeur peut signifier autre chose, par exemple quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux. Il ne signifie pas forcément la mort. Et si on arrive à dire ça régulièrement au cerveau, progressivement, le cerveau va prendre l'habitude de traiter autrement cette information. Et c'est là qu'on agit.
Dans votre cas, donc ça a plutôt bien marché.
Ça agit pour me sortir de là où j'étais, et maintenant j'ai encore une vie très très curieuse, beaucoup de temps allongé, un peu. J'ai pas encore écrit La Recherche du Temps Perdu apparemment, mais qui s'est écrit à la position horizontale. Mais peut-être que voilà, non, j'espère que je vais surtout pouvoir me remettre un jour à marcher bien et courir.
Alors vous vous appelez en tout cas en tant qu'auteur, Camille de Toledo. Mmh. Il se trouve que ce n'est pas votre vrai nom, oui. Que vous avez choisi ce pseudo il y a longtemps, alors que vous n'aviez pas vécu la totalité des drames qui arriveront après. Donc déjà, vous aviez ce rapport au passé particulier. Mmh. Et Camille est justement le prénom d'un aïeul suicidé. Mmh. Et tandis que Toledo est le nom de famille de votre grand-mère paternelle, mmh. un nom judéo-espagnol qui porte la trace, je crois, d'un exil. Enfin, c'est comme s'il y avait déjà deux secrets de famille dans le pseudo que très jeune vous avez pris.
Oui, ça c'est un peu comme si vous évoquiez tout à l'heure là. C'est des formes comme ça. C'est ce qu'on trouve dans les images. Vous savez, quand on regarde une image depuis l'avenir et on dit « Ah tiens, oh, combien cette image du passé révèle ?» quelque chose à venir, comme s'il y avait une préscience, une dimension prophétique de l'image d'archives. Et chez moi, il y a des actes qui ont été posés. Et j'avais conscience à 25 ans, quand j'ai publié mon premier livre, que je convoquais bon, ce qu'on appellerait des D-books, des fantômes, puisque De Toledo, c'était déjà un nom qui hantait la vie de mon père, qui recherchait ses origines juives, qui avait même pensé partir vivre en Israël. Je l'avais accompagné, donc c'était, on avait été en 1992 pour un peu commémorer l'expulsion des juifs d'Espagne. Donc c'était quand même une dimension très présente de mon enfance. Et il se trouve que mon frère avait été qualifié de sale juif pendant toute une partie de mon enfance par deux petits voisins. Et ça, c'est vrai, laissé des empreintes assez fortes chez moi, au point qu'aujourd'hui, j'ai fait une démarche de reconversion. En fait, beaucoup de mes questions existentielles tournent autour de la programmation, reprogrammation généalogique. Et c'est drôle parce que quand j'ai appris le nom d'écrivain, c'était sur un mode... l'écrivain qui se nomme, quoi, l'acte libre.
Oui, c'était léger.
C'était léger, c'était aussi sans doute un peu carnavalesque. Il y avait quelque chose d'une rupture avec avec d'autres noms.
Et puis il faut quand même rappeler que c'est, puisque vous parlez de rupture, c'était, je crois, à l'heure de sortir ce livre, archimondain, joli punk, et que justement le punk est celui qui crache sur le passé, au fond, qui s'invente dans l'ivresse destructrice.
Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai supprimé de ma biographie, parce que j'estime que la l'émotion d'écriture, qui était une émotion de colère, en fait, a mis ma vie sur un mauvais chemin, en fait. Elle m'a éloigné de mon enfance et elle m'a éloigné de la bonté et d'autres sentiments dont j'ai besoin pour vivre aujourd'hui. Et oui, mais surtout, il y a une chose assez amusante aussi, c'est que j'ai mis une branche morte. Camille est un suicidé, 30 novembre 1939. J'ai mis une branche qui portait la mort entre les mains des pharmaciens, puisque les De Toledo étaient une grande famille de pharmaciens juifs, d'origine juive, et qui vivent encore aujourd'hui à Genève, et qui sont pour la plupart assimilés, voire christianisés, comme on aurait dit au temps de la Reconquista espagnole.
Alors, il y a quelque chose de très beau dans votre écriture. J'aurais envie de parler d'une éthique de l'écriture qui transparaît dans tous vos livres, que je vais essayer de nommer, même si c'est pas facile. Mais pour la nommer, il faut comprendre combien elle contraste avec cette espèce d'autofiction souvent triomphante aujourd'hui, qui fait que beaucoup d'écrivains sont prêts à détruire tous leurs proches pour essayer de trouver un bon mot et de faire un petit chapitre correct. J'ai l'impression que vous, c'est le contraire. Que vous essayez d'écrire, mais sans faire de mal aux vivants. Sans faire de mal à vos proches. Ça apparaît simple comme idée. En fait, c'est assez rare. Et c'est surtout que ça va à l'encontre du cliché selon lequel, oui, quand on est écrivain, on met la littérature devant tout. J'ai toujours été choqué par cette idée que je trouve débile. Pour moi, la vie est plus importante que la littérature. Et j'ai l'impression que pour vous aussi.
Ah oui, la vie est... La joie est plus importante que la loi. J'avais cité Ernst Bloch dans un de mes livres en exergue. La joie est plus importante. Et aussi la vie, beaucoup, beaucoup plus... En fait, là, bon, il y a un thème qui est très important, je crois, aujourd'hui aussi, hein, qui est juste du point de vue aussi de notre époque, de ce qu'on a à faire, des gestes esthétiques qu'on a à faire, qui est ce qu'on appelle le tikkun olam, quoi, la réparation du monde. Évidemment, je ne crois pas que les mots forcément nous réparent, mais je crois qu'ils peuvent avoir l'intention de la réparation, et non pas l'intention de faire mal. Et par ailleurs, je pense que c'est anachronique. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un comme Thomas Bernhardt, c'est-à-dire du point de vue même de l'histoire des formes, de l'histoire esthétique, c'est une erreur d'appréciation sur les conditions du présent que de vouloir persister dans une logique, disons, de l'écriture, de l'écrivain qui trucide ou qui fait mal. Je pense que Thomas Bernhardt a écrit, Il a inventé quelque chose, une écriture de la, de la détestation, du ressentiment, d'ailleurs de manière très vitale. C'était pris dans un très grand vitalisme. Et puis ce vitalisme du mal est devenu au fil des années et des décennies mortel. Il est devenu sombre. Et pour moi, c'est une erreur esthétique de persister dans cette voie-là.
En tout cas, c'est une erreur esthétique, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de talent. Mais d'ailleurs, c'est Gide aussi, on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Tout ça, ça a essaimé. Hein. Thomas Bernhard, c'est la grande figure, mais il y a beaucoup de petits sous ce grand homme.
Oui, j'appelle ça d'ailleurs... Bon, quand c'est... Je pense qu'en fait, j'ai appelé ça, moi, assez jeune, l'académisme du mal. J'avais même appelé ça dans une critique d'un certain auteur qui a eu des soucis par la suite, d'ancien régime de la chair. Il y a quelque chose.
C'était Gabriel Mazneff?
Oui. Dans un article du Monde qui m'avait été, on m'avait demandé de l'amender parce qu'il était un peu trop dur à l'époque. Mais je crois qu'il y a, parce que précisément, il y a l'enfance qui parle. En fait, je pense qu'on peut s'enferrer dans cet académisme du mal à partir du moment où on a oublié la part d'enfance. Moi, j'ai toujours été lecteur des écrivains qui ont su garder Elias Canetti, qui a su garder l'enfance, Aaron Appelfeld, qui a su garder l'enfance, Imre Kertész, qui a su garder le rire, même voire l'ironie, parfois cinglante, mais de l'enfant. Je crois que les écritures que j'aime sont des écritures... qui n'ont pas rompu avec ça, avec cette vision d'enfant.
Merci beaucoup Camille Toledo, c'était un plaisir de vous écouter, on pourrait vous écouter des heures. Merci pour ce très beau livre, merci aussi pour ce combat, merci pour cette enquête. Je vais essayer, pour vous remercier, de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui est la vôtre. Une philosophie de la quête, une philosophie de l'enquête, et puis aussi toute une histoire où on a l'impression que c'était comme une démonstration qu'au fond, il faut guérir de l'excès du volontarisme moderne, occidental, qu'il y a beaucoup de choses qu'on règle, non pas en se livrant au bras de fer, mais plutôt en essayant d'accueillir, d'accepter, de consentir à ce qui est plus grand que nous. Et ce qui est plus grand que nous, parfois, ça vient de loin, ça vient de très loin. Je vais finir par une question qui est dans votre livre, qui est très belle. Que c'est la matière que nous ne savons pas encore, que nous échouons à porter jusqu'au langage? Je vous recommande encore une fois ce livre, même sur la plage, Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle. Merci beaucoup, merci. Camille de Toledo, c'était vraiment bien.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Alicia Vullo, avec à la technique Mathias Alléon, à la programmation musicale Valentine Chedebois, illustration sonore Romain Couturier. Cette émission a été préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours à 10h exactement dans la caverne de France Inter sous le soleil de Platon.